Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, c'est vendredi et qui plus est, veille d'un nouveau long week-end si vous profitez de votre lundi de Pentecôte férié. Bon réveil
et bon réveil à vous et ce matin, et comme chaque fois dans ce petit matin, quoi qu'en disent les cartes météo, il y aura du soleil dans votre radio.
Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Voilà, juste en dessous pour profiter de ces rayons, le soleil bienfaisant qui a droit à sa Bible désormais, un livre pour, je cite, tout comprendre sur notre étoile de son cœur en fusion jusqu'à la Terre et son climat.
Oui, ce soleil à qui on doit la vie, un ami qui nous veut du bien, nous éclaire, nous réchauffe, même si nous ne sommes pas à l'abri de ses colères, autrement dit, ses éruptions solaires.
Est-ce que nous savons tout sur lui? Nous poserons la question à 6h moins le quart au physicien solaire Frédéric Klett qui signe Le Soleil et nous aux éditions Favre. Dans l'actualité ce 3 juin, Julien.
Joe Biden appelle à interdire la vente de fusils d'assaut et de chargeurs à haute capacité aux particuliers, allocution télévisée qui intervient 9 jours après le massacre horrible de 19 enfants dans une école du Texas.
Dans le reste de l'actualité, une inquiétude.
Oui, une inquiétude au sujet de l'état de santé du pape François. Cela fait des semaines qu'il s'est clairement détérioré puisque le souverain pontife apparaît grimaçant, le regard emprunté. Pire, il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant.
Ce qui alimente la machine à rumeurs.
Oui, le pape pourrait-il imiter son prédécesseur Benoît XVI et renoncer à sa charge, d'autant qu'il vient d'annoncer qu'il allait nommer prochainement 21 nouveaux cardinaux, tous compatibles avec sa vision de l'Église. François est-il en train de préparer sa succession? Question que l'on va poser à 6h10 à notre invité, le spécialiste du Vatican, Arnaud Béda. Et puis juste après, Omblin, ce sera votre partition.
Un événement musical historique aujourd'hui. Le concert légendaire de Prince à Syracuse, près de New York en 1985, est enfin publié en CD et vinyle, le Purple Rain Tour, dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Petit problème de taxi ce matin, ça décidément, arrive. Mais ça arrive, c'est pas bien grave.
Alors attendez, je me prends râteau sur râteau, personne ne vient toujours me chercher, donc je ne sais même pas si je serai là avant 9h.
On lance un appel à tous les taxis parisiens, allez chercher Anissa Haddadi. En attendant, c'est une grosse journée orageuse, Anissa.
Oui, il va falloir... Tout se passe comme prévu, en fait. C'est vrai que depuis lundi, on vous annonce un long week-end de la Pentecôte qui sera orageux, une fin de semaine orageuse. C'est aujourd'hui la journée la plus orageuse normalement. Ça commence dès ce matin dans le sud-ouest, sur la Gironde, la Charente-Maritime, le Poitou. Le problème, c'est qu'on attend des orages très sévères dans ce secteur. Donc de la grêle, de forts cumuls de pluie. Alors vous le savez, les orages, ça peut durer une heure et ensuite le soleil est de retour. Mais c'est vrai que sur leur passage, ils risquent de faire des dégâts. Et puis ces orages vont remonter avec une bande orageuse qui va continuer jusque sur le nord-est en passant par la région parisienne dans l'après-midi. Alors ça va toucher la région parisienne et les Ardennes. Dans l'extrême sud, entre les Landes et la Côte d'Azur, là c'est très ensoleillé, très agréable. Et puis sur la façade atlantique, entre la Normandie, les Pays de la Loire et la Gironde, là on aura un temps un peu chaotique. Les températures, elles sont très douces, 19 à 26 sur la moitié nord jusqu'à 34 avec un ressenti très lourd.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et bonne route et à tout de suite. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce vendredi 3 juin, cet objectif, éviter le fiasco, tous les yeux rivés ce soir sur le Stade de France pour France-Danemark en Ligue des Nations. 80 000 supporters attendus sur place, certains craignent de nouveaux débordements 6 jours après la soirée cauchemardesque de la finale de la Ligue des Champions. Voile, camis, une épidémie de tenues islamiques frappe l'éducation nationale selon le journal L'Opinion. Qu'en pense Emmanuel Macron en déplacement à Marseille? Le président a réagi au micro Europe 1. Et puis, feliz cumpleaños, Rafa, 36 ans aujourd'hui. Aujourd'hui pour Nadal qui dispute cet après-midi à Roland-Garros sa demi-finale face à Alexander Zverev. Rien ne semble l'arrêter dans sa quête d'un 14e titre porte d'Auteuil.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Avons-nous appris de nos erreurs ? Réponse ce soir pour le match de Ligue des Nations France-Danemark au Stade de France à partir de 20h45. Moins d'une semaine après l'organisation catastrophique de la finale de la Ligue des Champions, il faut à tout prix éviter une nouvelle humiliation aux yeux du monde à un an du Mondial de rugby et à deux ans des Jeux Olympiques. Sécurité ultra renforcée pour un match très particulier, Cyril de la Morainerie.
Oui, c'est une rencontre particulière. D'abord pour les spectateurs, 80 000 personnes attendues ce soir dans l'enceinte de Saint-Denis. Malgré des messages rassurants du gouvernement, certains hésitent encore à se rendre au Stade de France. C'est le cas de Béatrice.
J'ai prévu d'y aller avec mes enfants, mais pour leur premier match au Stade de France, j'ai pas envie de me retrouver au milieu des bombes lacrymo. J'hésite franchement, mais si on y va, ce sera en taxi, en espérant ne pas avoir à terminer à pied en descendant sur l'autoroute par exemple.
Du côté des joueurs, hormis Karim Benzema, tous ont regardé la finale de la Ligue des Champions depuis Clairefontaine. Malgré tout, les Bleus n'ont pas peur de se rendre au Stade de France, comme l'a rappelé Guy Stéphan, qui remplace Didier Deschamps, retenu par un drame familial.
J'ai pas de crainte particulière, je pense et j'espère fortement que ça se passera bien. On est là pour gagner un match. On est là aussi pour rendre les gens le plus heureux possible.
Pour les rendre heureux, les Bleus espèrent s'imposer face à un adversaire qu'ils vont retrouver dans 5 mois et demi à la Coupe du Monde. Le Danemark, 11e nation mondiale, est mieux classé que l'Allemagne, la Suède ou l'Uruguay. Des Français qui espèrent conquérir la Ligue des Nations, dont ils sont les tenants du titre.
Merci Cyril de la Morainerie. Et le prochain match pour les Bleus en Ligue des Nations, ce sera lundi face à la Croatie.
L'expérimentation semble porter ses fruits. L'école du futur, c'est pour bientôt dans toute la France.
À partir de l'automne-hiver prochain, annonce d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Avec son ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, ils sont allés dans l'une des 59 écoles test de la cité phocéenne, où ce sont notamment les directeurs qui recrutent les profs. Nouveauté aussi pour la rentrée prochaine, le grand retour des maths en classe de première en option et non obligatoire.
L'école justement confrontée à une épidémie, celle de tenue islamique.
Partout en France et dans de plus en plus de lycées, selon les révélations du journal L'Opinion hier, comme à Paris, le rectorat indique au journal que depuis quelques semaines, il constate une hausse significative du port de tenues vestimentaires ostensiblement religieuses, comme le camis ou le voile. Jacques Seret, vous avez profité du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, dont on vient de parler à l'instant, pour l'interroger sur le sujet.
Oui, et tout d'abord, Emmanuel Macron ne dément pas l'existence de ce phénomène, de cette épidémie, comme l'a titré l'Opinion.
Quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc nous sommes en situation constamment de le mesurer, donc on fait remonter, ça c'est la responsabilité de Monsieur le ministre, ces informations.
Et pour cause, le renseignement territorial a déjà alerté le ministère de l'Intérieur, les différents rectorats ont eux aussi fait remonter à leur hiérarchie, au ministère de l'Éducation. Le dossier devrait être rapidement soumis à Pap Ndiaye, à ses côtés justement. Et alors que les oppositions de droite avaient dénoncé une certaine vision communautariste du nouveau ministre de l'Éducation à sa nomination, Emmanuel Macron a tenu à mettre les choses au clair.
La politique que je veux conduire est toujours la même, celle de la vérité. Il doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit.
Le chef de l'État promet de répondre à toutes les situations qui ne respecteraient pas les lois de la République. Un défi qui s'annonce pour le moins colossal.
Merci Jacques Seret du service politique d'Europe 1.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter ? C'est la question posée cette nuit par Joe Biden, le président américain.
Oui, hein, car l'émotion est toujours vive aux États-Unis. 9 jours après le massacre d'Uvalde au Texas, qui a coûté la vie à 19 enfants et 2 enseignants. Le 14 mai, c'est à Buffalo que 10 personnes ont été tuées. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. C'en est trop pour Joe Biden, qui a appelé le Congrès à agir.
Too many other everyday places that have become killing fields.
Oui, trop de lieux de la vie de tous les jours sont devenus des champs de bataille, déplore Joe Biden. Nous devons faire quelque chose, dit le président, des mesures de bon sens, alors que les États-Unis ont déjà connu plus de 230 fusillades depuis le début de l'année.
Nous devons bannir les armes d'assaut, et si nous ne pouvons pas le faire, nous devons augmenter l'âge minimum pour pouvoir les acheter de 18 à 21 ans, et renforcer le contrôle des antécédents des acheteurs d'armes.
Alors depuis la tuerie d'Uvalde, c'est la première fois que Joe Biden rentre autant dans les détails, une manière pour le président de continuer à faire pression sur le Congrès. Il avait fait la promesse d'en finir avec le fléau des armes à feu, mais se heurte à l'opposition des conservateurs.
Le fait que la majorité des républicains du Sénat ne veuille pas que ces propositions soient débattues ou soumises à un vote, je trouve ça inadmissible.
10 voix républicaines sont nécessaires pour l'adoption d'un texte sur le contrôle des armes. Des discussions ont débuté cette semaine au Sénat. L'enjeu pour les démocrates, y aller progressivement, ne pas brusquer les républicains pour tenter d'obtenir une petite avancée qui reste pour le moment très improbable.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
Allez, on ouvre le chapitre Roland-Garros à présent. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale chez les dames.
Une finale jeune, très jeune. Elle opposera l'américaine Coco Gauff, tout juste 18 ans, à la grande favorite du tournoi numéro 1 mondial et vainqueur en 2020, Iga Swiatek, 21 ans. Ce sera demain, 15h.
Et vous suivrez évidemment ce match sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et aujourd'hui, c'est chez les hommes que l'on connaîtra les noms des finalistes.
Et oui, à suivre notamment Casper de Marin Cilic. L'autre match ultra attendu, Rafael Nadal, Alexander Zverev. L'Espagnol qui fête ses 36 ans aujourd'hui et qu'on disait moribond avant le début du tournoi renaît une nouvelle fois de ses cendres comme un phénix. On a l'impression que personne n'arrive à l'arrêter dans sa quête d'une 14e coupe des mousquetaires dimanche soir. Axel May.
Dans le cours central, une phrase de l'aviateur Roland Garros est écrite en lettres capitales. « La victoire appartient au plus opiniâtre ». C'est comme si cette citation guidait les pas de Rafael Nadal lorsqu'il entre sur le terrain, accompagné par le public qui scande des « Rafa, Rafa ». Dans ce cours central, le Mallorquin est capable de se transcender, de retrouver un niveau stratosphérique, d'oublier ce pied gauche douloureux qui le force à jouer sous médicaments. Alors oui, pour l'ancien tennisman Arnaud Di Pasquale, Nadal, 5e mondial, est le favori de cette demi-finale face à l'Allemand Zverev. Le numéro 3, pourtant auteur lui aussi d'un énorme match au tour précédent contre le prodige espagnol Carlos Alcaraz.
Zverev peut le battre, mais on est à Roland-Garros. C'est une réponse, j'ai presque envie de mettre un point final. On est à Roland, il se passe quelque chose pour Nadal sur le Philippe Châtrier. Et là, contre Djokovic, il s'est passé quelque chose. Mais Zverev, quand il joue comme sur le match d'Alcaraz, c'est phénoménal. Nadal est au-dessus pour moi.
En fait, c'est comme si Nadal tenait déjà d'une main la Coupe des Mousquetaires qui sera remise au vainqueur final dimanche.
Axel May, que l'on retrouve à 8h30 tout à l'heure sur Europe 1 pour le journal de Roland-Garros.
Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
5h08 et ce sont les courses à présent. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline. Il y aura des courses ce soir en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 311 Hirondelle du Rib. C'est assurément la meilleure jument de sa génération au trot monté depuis plus de 2 ans où elle règne sans partage dans cette spécialité. Et ce soir, face à ses seules contemporaines, elle ne devrait avoir aucune difficulté à remporter sa 11e victoire et s'adjuger ainsi les quelques 54 000 euros offerts à la gagnante de cette course de groupe 3 et franchir ainsi la barre symbolique des 500 000 euros de gains. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 11, Hirondelle du Rib.
Hirondelle du Rib, c'est bien joli comme nom. Merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Excellent vendredi matin avec nous, place au pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour. Martin. Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux dont les unes affichent toutes le nombre 100 au 100e jour de la guerre en Ukraine. Héroïque jusqu'à quand, interroge le Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration le président ukrainien. Après 100 jours, l'étau russe se resserre sur le Donbass, précise le Figaro, dont la photo en une traite d'un tout autre sujet, beaucoup plus people, Johnny Depp et Amber Heard, le procès qui a passionné l'Amérique, écrit le quotidien. Une bonne nouvelle, en tout cas en apparence, à la une des échos. L'OPEP ouvre les vannes du pétrole, titre le journal économique, alors que le cartel de pays exportateurs va augmenter sa production. Les prix des carburants vont-ils pour autant baisser à la station, à la pompe? Rien n'est moins sûr. Voilà pour les unes. Ombline, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné?
Figurez-vous qu'il n'y a pas que le jubilé de la reine Elisabeth II que nous célébrons cette semaine. Il y a aussi les 60 ans de règne des Rolling Stones sur la planète rock. Les sujets de Sa Majesté ont donné le coup d'envoi de leur tournée européenne à Madrid mercredi dans un stade de football et le Figaro y était sur scène, les infatigables, les indéboulonnables. Oui. Mick Jagger et les deux guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood qui a fêté ses 75 ans cette semaine, on en a parlé sur Europe 1.
On lui a fêté son anniversaire.
Bah oui, ma foi. Également Darrell Jones à la basse et puis à la batterie Steve Jordan qui depuis un an a la lourde tâche de succéder à Charlie Watts disparu le 24 août dernier. Les Stones, le célèbre d'ailleurs ce batteur mythique Charlie Watts au début du concert avec la diffusion de photos. Le stade est plein à craquer, 50 000 personnes reprennent les morceaux en chœur et tous ou presque, ont revêtu leur plus beau t-shirt à l'effigie des Stones, des classiques, et bien sûr comme ce sympathique Fort de Deville, des surprises, Mick Jagger qui s'adresse à la foule en espagnol. La deuxième partie du show est quasi inchangée depuis 1989, figurez-vous, avec une succession de leurs plus grands succès. You can't always get what you want, Honky Tonk Woman, Keith Richards prend le micro pour entonner Happy, c'est son hymne depuis 1972. Vienne, Miss You, Start Me Up, Painted Black. Le rappel est à la hauteur du spectacle, d'une énergie absolument folle. Ce 60 Tour est prévu sur 2 mois. Ils seront dimanche à Munich, à Liverpool, jeudi prochain, la ville des autres. Vous savez, les autres.
Des Beatles. Voilà.
Ce qui n'était pas arrivé depuis petite cinquantaine d'années, quand même, les Stones à Liverpool. Et puis, on les attend, bien sûr, en France, le mardi 19 juillet au Groupama Stadium de Lyon. Et le 23 juillet, donc 3 jours avant le 79e anniversaire de Mick Jagger à l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Bientôt 80 ans. Quoi.
Incroyable, hein ?
Incroyable.
Bientôt 80 ans, comme notre réalisateur.
ça pousse les Rolling Stones et leur jubilé de diamant. Leur tournée des 60 ans en Europe, dans Figaro ce matin.
Merci beaucoup, Omblin, et merci à Fabrice Lafitte. Martin, c'est à vous.
Oui, avec un drôle d'échange qui se profile en marge de la guerre en Ukraine, le très sérieux journal américain Forbes rapporte que les États-Unis et la Russie négocient actuellement un échange entre un des plus grands trafiquants d'armes de l'histoire et une basketteuse professionnelle. Victor Boot contre Britney Greener, deux noms qui ne vous disent peut-être rien et qui n'ont surtout rien en commun. Alors d'un côté, vous avez Victor Boot et sa moustache tout droit sortie des années 70. Si vous ne connaissez pas son patronyme, vous connaissez sûrement son surnom, Lord of War, le seigneur de la guerre, et son histoire racontée de manière romancée dans un film du même nom. C'était en 2005.
On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, exactement, un discours qui résonne tristement dans l'actualité, avec l'actualité. Alors, Victor Boot a commencé comme traducteur dans l'armée russe, profitant de la chute de l'armée soviétique. Il a fondé une compagnie aérienne pour écouler les armes russes partout dans le monde, surtout pour le compte de dictateurs sanguinaires. Son ascension s'est mal terminée puisqu'il a été arrêté par les autorités américaines à Bangkok en 2008 alors qu'il tentait d'armer les FARC colombiens.
Et cette basketteuse, alors je vous ai parlé d'une basketteuse, qui est-elle?
Exactement, Britney Greener, elle aussi est une des toutes meilleures dans son domaine. Double championne olympique et, comme beaucoup de ses compatriotes, nettement moins bien payée que les hommes. Elle allait faire des extras hors saison en Russie, un championnat qui paie très bien. Sauf que la pige s'est transformée en cauchemar. Le 17 février dernier, Britney Greener a été arrêtée à l'aéroport de Moscou en possession de cartouches de cigarettes électroniques contenant du THC, un produit autorisé dans la plupart des États américains, mais formellement interdit en Russie. Elle croupit depuis 3 mois dans une prison russe et elle est surtout devenue une formidable monnaie d'échange pour Moscou. Forbes n'a pas réussi à faire confirmer par les autorités américaines que les tractations était en cours en vue d'un échange, mais les sites russes sont formels. Le seul point de blocage pourrait être moral, évidemment, côté américain, mais le magazine ajoute que d'autres ressortissants emprisonnés en Russie pourraient être ajoutés à ce troc. Le Lord of War, Victor Boot, échangé contre la basketteuse Britney Greener, c'est à retrouver sur le site de Slate.
Et ça a l'air passionnant comme article. Merci beaucoup.
Histoire très étonnante.
Martin, j'ai choisi pour ma part un article du Parisien aujourd'hui en France qui s'intéresse à la vapoteuse, cigarette électronique. Forcément, mais que l'on voit partout, que votre collègue ou ami sort et utilise partout, provoquant derrière lui un nuage de fumée. C'est pratique, surtout essentiel pour certaines personnes ayant décidé récemment d'arrêter de fumer. Et pourtant, désormais, si vous êtes vapoteur et que vous partez en voyage, il faudra vous assurer de la législation en vigueur dans le pays de votre destination. Car mardi, le Mexique est devenu le 32e pays, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à interdire la vente de cigarettes électroniques, ce qui fait en tout que la vapoteuse est proscrite pour un tiers de l'humanité. Je l'ai appris ce matin dans le Parisien, c'est absolument sidérant. 2,4 milliards d'habitants n'ont pas le droit de vapoter. Certains pays proscrivent la détention de cigarettes électroniques, comme la Gambie, qui est particulièrement stricte. D'autres, la distribution ou l'import, comme l'Inde, voire l'usage d'arômes, c'est-à-dire l'utilisation des liquides, des recharges, charge au goût fraise, framboise, melon ou autre. C'est le cas notamment de la Finlande. Au total, 111 pays ont mis en place des mesures restrictives ou sanitaires selon le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme publié l'année passée. C'est un mensonge de dire que les vapoteuses sont une alternative aux cigarettes. Voilà ce que vient de déclarer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui estime que ce produit est également mauvais pour la santé. Il reprend là en fait l'argumentaire de l'Argentine, argumentaire que l'Égypte s'apprête à imiter.
Mais alors, est-ce que ces décisions se basent sur des études scientifiques ?
Alors oui et non. En fait, tout dépend de la manière dont on les lit. C'est un peu toujours la même chose. Déjà, plus personne n'ose affirmer que la vapoteuse est neutre pour la santé. C'est le résultat de la multiplication des recherches qui s'accumulent depuis une quinzaine d'années. En revanche, beaucoup d'études montrent que les liquides de cigarettes électroniques sont beaucoup moins toxiques qu'une vraie cigarette avec du tabac. On n'y retrouve pas les 4000 substances chimiques et la cinquantaine de molécules cancérigènes qui les accompagnent, explique une chercheuse de l'INSERM. En fait, les pays invoquent tout un tas d'arguments pour justifier l'interdiction de la vapoteuse. Alors pour le Cambodge, par exemple, c'est l'aspect ludique et attractif pour les plus jeunes qui pose problème. Idem au Brésil, où le nombre de fumeurs est relativement faible, seulement 10% de la population, quand chez nous c'est près de 30%. La cigarette électronique y est interdite pour éviter que les jeunes générations développent une addiction à la nicotine. Et puis il y a dans tout ça le Liban, un pays très lié à l'industrie du tabac, puisque producteur des fameuses feuilles. Le Liban, où vapoter est extrêmement réglementé, voire interdit, pour ne surtout pas faire d'ombre à la bonne vieille clope, mégot que l'on peut garder au bec à peu près partout, à Beyrouth, à Rho, sur la vapoteuse, c'est-à-dire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France.
Mais c'est intéressant ce que vous précisez sur le Liban, parce qu'au Mexique, on a le droit de fumer hein, des cigarettes.
Hein, oui,
absolument. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème dans les cigarettes. C'est bien sûr, il y a des lieux où on ne peut pas, mais la cigarette n'est pas interdite. La vapoteuse, oui.
Voilà.
Allez comprendre. Merci beaucoup, Julien. Et Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h18 sur Europe 1, soyez tous les bienvenus. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Oui si, en liste d'attente ou non. Les premières réponses sont tombées hier soir sur Parcoursup. Les candidats qui ont reçu des propositions ont 6 jours pour y répondre. Et pour ceux qui ont encore des questions, une messagerie est disponible sur le site. L'école du futur, généralisée à tout le pays à l'automne hiver prochain, annonce d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Accompagné de son ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, ils ont visité l'une des 59 écoles test de la ville. A noter que les maths seront de retour à la rentrée prochaine en classe de première, en option et non obligatoire. 100e jour de guerre en Ukraine. Les Russes contrôlent désormais 20% du territoire selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, hier. A noter que selon nos informations européennes, un combattant français a été tué dans le pays, dans la région de Kharkiv. Une première depuis le début du conflit.
Europe 1. On poursuit ensemble avec, à présent, la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes et les initiatives en France nous emmènent du côté de Tours.
Bonjour Renan Bouquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes à la tête de GéoVélo, une application qui guide et sécurise les cyclistes. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Ah bah, GéoVélo, c'est une application, comme vous l'avez dit, dont l'objet est de fournir des itinéraires sécurisés en ville et loisirs aux cyclistes. C'est gratuit, c'est sans pub. Et avec les traces GPS qui sont faites par les cyclistes, les données qu'on a de l'application, on arrive à fournir des analyses pour les villes, pour les acteurs de la mobilité, pour améliorer l'espace urbain et le rendre plus cyclable.
Pour que nos auditeurs visualisent bien les choses, c'est une sorte de Waze, mais du vélo, c'est ça ?
On a une communauté, il y a 1 million de téléchargements et 650 000 utilisateurs de GéoVélo en France, qui peuvent utiliser GéoVélo gratuitement toujours, qui peuvent contribuer pour dire si jamais il y a des incidents de parcours, des nids de poules, des pistes cyclables non utilisables, des routes bloquées, et pour pouvoir prévenir la communauté que notre calculateur fasse bouger l'itinéraire de sorte que le cycliste soit bien aiguillé.
Parce que c'est ça, hein, la plus-value de votre application, c'est qu'elle est vraiment axée sur la sécurité. Elle propose les trajets les plus sécurisés, ceux qui comportent un maximum de pistes cyclables.
Exactement. En fait, on a une cartographie pure et parfaite dans GéoVélo, qui est supérieure à celle de grands acteurs connus américains qui font aussi du mapping et du calcul d'itinéraire, qui fait qu'on est capable de fournir des itinéraires vraiment qui maximisent l'espace cyclable. Donc plutôt que de passer par des itinéraires encombrés avec d'autres véhicules motorisés, moto-voitures, on va plutôt emprunter des itinéraires qui sont protégés et qui protègent le cycliste pour lui permettre d'avoir une pratique du vélo la plus sécurisée possible.
D'ailleurs, je vous parle en regardant l'application sur mon téléphone au moment où je vous parle. On les voit physiquement, hein, ces pistes cyclables qui apparaissent sur la carte qui est le cœur de l'application.
Exactement, ouais. On essaye de fournir alors plusieurs alternatives d'itinéraires. Il peut y avoir des itinéraires loisirs, balades, des itinéraires plus sécurisés, plus directs. Selon qu'on est dans une ambiance plus vélo-taf, on va au travail à vélo, ou plus dans une ambiance week-end en famille et qu'on a envie de se balader, ben, on essaie de fournir la réponse la plus adaptée. Et oui, comme vous le dites, on voit les espaces cyclables qui figurent clairement sur notre cartographie.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi une fonction balade clé en main, c'est-à-dire des itinéraires pour profiter au maximum de l'environnement qui nous entoure.
Exactement, qui essaye de maximiser les points d'intérêt, qui essaye de fournir des boucles sur des durées données. Si quelqu'un a une heure de temps ou deux heures de temps pour pratiquer le vélo seul ou en famille et qu'il veut dans son coin, on est capable de générer une balade automatique qui lui permet de maximiser les points d'intérêt et évidemment être dans la durée souhaitée et sur un itinéraire sécurisé.
Et en tant qu'utilisateur, on peut proposer aux autres ses propres balades, ses propres itinéraires ?
Alors pas encore, mais ça fait partie des fonctions qu'on entend développer, parce que GeoVélo, c'est une start-up française. Hein. L'application telle que vous l'avez entre les mains, elle existe depuis 2018 seulement, donc ça fait 3 ans. Donc il y a encore beaucoup de fonctionnalités d'amélioration à y apporter. On y travaille, et notamment cette contribution sur les balades des utilisateurs, c'est un sujet évidemment qu'on traite et qu'on a envie de mettre en avant et qui voit le jour.
Bon, alors j'imagine que le téléphone, on le met sur le guidon de son vélo. Comment est-ce que l'application nous avertit en tant que cycliste, dont nos yeux doivent théoriquement rester en permanence sur la route, qu'on doit tourner à droite ou à gauche?
Alors, il y a plein de modes. Il y a un mode fonction vocale, il y a un mode simplifié de cartographie qui permet d'avoir juste la flèche à droite, la flèche à gauche pour éviter d'avoir l'œil qui reste trop longtemps sur le téléphone. Mais c'est amusant parce que c'est une question qu'on me pose souvent et pourtant c'est un problème qu'on ne se pose pas en voiture alors que c'est beaucoup plus dangereux quand on est à 100 km/h de regarder son GPS de voiture. Là on est à 14-15 km/h.
Sauf qu'en voiture on entend davantage les consignes du GPS alors qu'en vélo il y a la pollution, le trafic sonore. Dans certaines villes c'est très compliqué d'entendre quoi que ce soit quand on est sur son vélo.
Moi je l'utilise quotidiennement pour aller au travail. J'habite en banlieue parisienne et je vais au centre de Paris tous les jours en faisant du train vélo. À 15 km/h de moyenne ou 16 km/h de moyenne, passer une seconde à regarder son itinéraire, c'est pas très dangereux. En tout cas, c'est pas une source d'accident chez le vélo du tout. C'est ni un frein à la pratique, ni un frein à utiliser le GPS.
Et puis, il y a une fonction qui vibre aussi. Hein. Je crois que le téléphone vibre quand on peut tourner à droite ou à gauche, c'est ça ?
Effectivement, le vibreur, effectivement la fonction vocale, le mode affichage simplifié pour permettre d'être le plus concentré sur la route.
Comment vous est venue l'idée de créer GeoVélo ?
C'est la rencontre de deux passions, GeoVélo, qui remonte à très loin. Parce qu'en fait, là, je vous parlais de 2018 pour l'application, mais GeoVélo, l'idée est née en 2008, 2 ans avant l'arrivée de Waze en France, qui est arrivée en 2010. Donc quand à cette époque-là, il y a eu la rencontre de la passion du vélo avec la rencontre de la passion de l'informatique. On a eu cette idée très avant-gardiste sur laquelle il y avait très peu d'écho à l'époque. Personne ne nous écoutait, personne ne voulait nous entendre sur le sujet vélo. Mais la passion nous a permis d'avancer et en fait, c'est devenu un sujet à partir de 2015-2016 où tout le monde d'un seul coup voulait faire du vélo, voulait l'introduire en ville. Les vélos se modifiaient, devenaient des vélos à assistance électrique et non plus musculaires seulement. Et donc ça gommait beaucoup des freins à la pratique. Sauf que il fallait transformer l'espace urbain violemment, avec très peu de rationnel pour le faire. Et c'est là où on s'est dit, mais nous, on a plein de données d'itinéraires cyclistes, de flux de trajets cyclistes qu'on peut analyser et on peut dire aux villes où est-ce qu'il faut mettre l'espace cyclable bon pour éviter une dépense publique inefficace. Et donc, c'est un peu notre sujet aujourd'hui et c'est ces analyses de données qui intéressent les villes et qui sont notre business model.
Ça veut dire que ces données, vous les revendez aux villes pour qu'elles puissent adapter leur mobilier urbain, les trajets, etc.
On va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on ne fournit pas les données directes, puisque ça, c'est la propriété des utilisateurs. On fait des analyses avec ces données, on les agrège, on les anonymise. Et on peut fournir des informations hyper intéressantes. Par exemple, avec le téléphone, on capte la granularité de la route avec les capteurs du téléphone. On arrive à savoir si on est sur de l'asphalte, du chemin de terre, s'il y a des nids de poules. Et donc, on est capable de donner des indications d'amélioration de la voirie. On capte aussi, avec l'accéléromètre du téléphone, des freinages d'urgence. Donc, on est capable de savoir s'il y a des zones accidentogènes où il faut apporter une amélioration urbanistique. Et on est capable aussi de voir les discontinuités de l'espace cyclable et de dire, là, il faut le continuer parce que, en fait, les gens font des itinéraires détournés qui sont dangereux. Donc, on a beaucoup d'analyses qui nous permettent de déterminer quelles sont les bonnes décisions à prendre en matière d'urbanisme pour le rendre plus cyclable, plus sécurisé.
Et c'est passionnant. Merci beaucoup Ronan Bouquet de nous avoir présenté GeoVélo, l'application qui guide et sécurise les cyclistes, mais pas uniquement, on l'a bien compris. Merci à vous et à bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
Europe Matin, on Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre réveil. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre. Et puis, c'est l'une des premières questions que l'on se pose chaque matin. Est-ce qu'il y aura du soleil aujourd'hui?
Oui, parce qu'il donne le ton de notre journée. On en parle dans un instant avec la météo d'Anissa Haddadi. Sera-t-elle lumineuse cette journée? Sera-t-elle maussade? Le soleil brille constamment au-dessus de nos têtes malgré les nuages. Et pourtant, on a souvent tendance à l'oublier. Que savons-nous sur lui? Quelle importance a-t-il eu sur l'apparition de la vie sur Terre? Nous serons dans un quart d'heure avec le physicien solaire Frédéric Klett qui signe Le Soleil et nous aux éditions Favre.
Et puis juste après, de la musique avec Stéphanie Noir.
C'est le retour aujourd'hui de M, Mathieu Chedid, avec son nouvel album Rivalité. On en parle avec Stéphanie à 5h50.
Mais avant, la météo qui ce matin vous est offerte par Morissette, Taxi G7, qui a bien voulu nous amener notre cher journaliste météo Anissa Haddadi.
Je l'embrasse, une vraie pilote.
Merci Morissette. Elle est un peu verte ce matin,
non,
Anissa, parce
non,
que
elle a géré.
Visiblement elle est tombée sur le Sébastien Loeb du Taxi
Morissette
G7.
Morissette Fangio, ouais.
Beaucoup d'orages aujourd'hui.
Oui, beaucoup d'orages, comme cela a été prévu. C'est vrai que ça commence dès cette nuit, hein, on a eu quelques petits orages. Ce matin, c'est l'Aquitaine, le Limousin, le Massif central qui sont les régions touchées. Alors, c'est très difficile de vous faire des prévisions aujourd'hui parce qu'on a une bande orageuse qui est très désorganisée. D'habitude, les orages, ils arrivent, ils suivent une trajectoire, c'est plutôt organisé, c'est-à-dire que si je vous dis que ça tape d'abord en Aquitaine et qu'ensuite ça suit le Limousin, normalement ça se passe comme ça. Là, c'est totalement désorganisé, c'est-à-dire qu'on en aura dans le Massif central, dans le Midi-Pyrénées aussi ce matin. Cet après-midi, on aura une large bande qui ira du sud-ouest au nord-est jusqu'en Lorraine, et puis la Basse-Normandie aussi sera touchée, et puis les Alpes, donc finalement, voilà, il y a pas mal de régions touchées. Seul le pourtour méditerranéen reste sous le soleil. On va surveiller hein, parce que certaines régions pourraient être en alerte orange, voire même rouge, parce que les orages seront forts avec de la grêle, jusqu'à 50 mm d'eau par endroit et de gros coups de vent jusqu'à 80 km/h. Ce soir, 18h-22h, ça risque de taper fort sur le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne, la région parisienne. Les températures lourdes, hein, 21 à Saint-Brieuc, 23 à Belfort, 27 à Paris et jusqu'à 35 dans le sud, jusqu'à 40 même en Corse aujourd'hui.
Ouais, hein. Ça va taper. Merci beaucoup Anissa Haddadi pour cette météo. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, la fin du suspense pour 600 000 lycéens de terminale. On ne parle pas encore des résultats du bac, mais du verdict Parcoursup, la plateforme d'orientation vers les études supérieures. Dans ce journal, une première ministre un peu trop discrète. Près de deux semaines après sa nomination, Elisabeth Borne reste étrangement silencieuse. La Macronie s'interroge. Et puis la Chine veut tourner la page Covid après la levée de la plupart des restrictions à Shanghai. Pékin met les bouchées doubles pour relancer une économie quasiment à l'arrêt.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ils ne sont pas encore officiellement bacheliers, mais ils savent déjà dans quelle université ils poursuivront leurs études. Depuis hier soir, 19h, un peu plus de 600 000 lycéens ont pris connaissance du verdict de Parcoursup, plateforme d'orientation ou de réorientation vers les études supérieures. Accepté, refusé ou placé sur liste d'attente, on imagine l'appréhension. Zoé Pallier est allée à la rencontre d'une famille où les trois garçons sont en terminale. Trois raisons de stresser et d'espérer. Reportage.
Alors, ça a donné quoi Parcoursup, les garçons ?
Mitigé. Moi, ça va pour le coup. J'ai été pris à deux vœux et sinon, un refusé. Sinon, les autres sont en attente. Donc, ça.
Moi, il n'y a eu que un accepté.
Ouais, Université Paris, licence arts plastiques. Je suis un peu déçu, un peu surpris aussi parce que bon, je ne m'y attendais pas forcément.
Vous, ça a été une journée stressante pour vous, madame ?
Ouais, horrible. C'est des élèves qui ont eu des félicitations depuis qu'ils sont en 6e et ils méritent le mieux.
Toute l'année, les professeurs ils ne nous parlaient que de ça, de toute façon.
Même mon prof de maths, il disait que le plus important, c'était Parcoursup plutôt que le bac.
Après, il y en a deux en attente. Elles vont se débloquer. Et déjà, vous avez beaucoup de chance parce que moi, je pensais rentrer. Et voilà, c'était possible que vous ayez tout en attente. Je m'étais mentalisée sur comme ça. Il faut juste qu'on voit combien t'es classé.
Voilà, du coup, je clique sur le lien de Parcoursup. Ça charge. Pour l'instant, il n'y a toujours pas le classement. Je pense qu'il arrivera dans les prochains jours.
Et vous avez l'outil là pour répondre oui ou non, j'accepte ou pas ?
Non, pas encore. Ils ont dit aussi ça pour l'instant et ça apparaît pas. C'est pas encore la fin de l'attente, non.
Le reportage signé Zoé Pallier, résultat décalé d'une semaine pour Sciences Po Paris. L'Institut d'études politiques publiera la liste des admissibles le 8 juin.
Et on retient de ce reportage que Parcoursup est plus aujourd'hui plus important que le bac. L'école, il en a été largement question hier à Marseille. C'était d'ailleurs le thème de la visite d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne.
Le président accompagné de son tout nouveau ministre de de l'éducation nationale, Pap Ndiaye, a donné sa vision de l'école du futur. Il prône une révolution culturelle. L'expérience pédagogique menée dans 59 écoles marseillaises sera bientôt élargie à tout le territoire. Les chefs d'établissement auront notamment la possibilité de recruter eux-mêmes les enseignants.
Un président très actif qui multiplie les prises de parole et une première ministre très discrète, trop aux yeux de certains membres de la Macronie.
Le contraste est effectivement saisissant. Où est passée Elisabeth Borne ? Les cadres de la majorité s'interrogent. Le silence de la première ministre en pleine polémique sur les incidents du Stade de France n'est pas passé inaperçu. Son absence sur le terrain non plus et les critiques commencent à fuser. Arthur Delaborde.
Oui, elle n'a pas dit un mot sur le fiasco du Stade de France. Elisabeth Borne reste prudemment en retrait du scandale. Elle préfère peser dans l'ombre, explique un cadre de la majorité qui relève aussi son absence hier lors d'une réunion à Matignon sur le dispositif de sécurité pour le match de ce soir à Saint-Denis entre la France et le Danemark. J'aimerais bien l'avoir un peu plus à la manœuvre, confie un haut responsable de la Macronie. Mais dans l'immédiat, Elisabeth Borne se concentre sur le double défi qu'elle a à relever. D'une part, mettre en œuvre la planification écologique en cherchant à incarner la nouvelle méthode vantée par Emmanuel Macron. Et d'autre part, mener sa première campagne dans sa circonscription du Calvados, qu'elle arpente tous les week-ends. Chez ses ministres, on entend deux sons de cloche très différents. Certains louent son management très direct, d'autres ne cachent pas un certain sentiment de flottement. Elle se révélera après les législatives, prédit un député qui l'a décrit comme un bulldozer pour mettre en place les réformes, doutant de sa capacité à prendre de l'épaisseur. Un conseiller de l'Élysée l'imagine en revanche faire ses cartons après les élections.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Cette question à présent à 5h34 sur Europe 1. La Chine est-elle en train de tourner la page Covid ? Enfin, serait-on tenté de dire. En tout cas, Pékin semble décidé à relancer son économie coûte que coûte.
Les autorités ont commencé à déconfiner Shanghai et ses 26 millions d'habitants. Il faut maintenant relancer une machine économique grippée par la stratégie zéro Covid. Usines à l'arrêt, investissements en berne et chômage en hausse. Le régime chinois va donc employer les grands moyens pour éviter la récession qui s'annonce. Correspondance à Pékin, Sébastien Lebelzik.
Les barrières tombent et les 26 millions d'habitants de Shanghai retrouvent la liberté. La capitale économique chinoise se déconfine et avec elle la plupart des entreprises et des commerces à l'arrêt depuis fin mars. Mais les restrictions liées au Covid pèsent très lourd sur l'économie chinoise avec des conséquences désastreuses, notamment sur l'emploi. Écoutez Bettina Schön-Beanzin, présidente du bureau de Shanghai de la Chambre de commerce de l'Union européenne.
Les secteurs clés essentiels sont vraiment touchés de plein fouet. Vous avez le chômage qui progresse à une vitesse folle, plus de 60%. Et si vous regardez les jeunes, c'est d'environ 20%. Donc le gouvernement doit vraiment faire face à de nombreux problèmes.
Alors pour éviter la récession, Pékin sort le carnet de chèques. Plus de 2000 milliards d'euros seront investis dans les infrastructures via un plan de relance exceptionnel. Et rien qu'à Shanghai, plus de 30 milliards d'euros iront soutenir les PME et la consommation des ménages via des subventions. Un pari néanmoins risqué pour la Chine au cas où de nouveaux confinements viendraient gripper à nouveau les rouages de la deuxième économie mondiale. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
En Ukraine, premier bilan au centième jour de l'invasion russe. Moscou contrôle désormais 20% du territoire dans le sud et l'est. Les forces de Vladimir Poutine concentrent leurs efforts dans la conquête du Donbass. Les Occidentaux doivent s'attendre à une guerre d'usure sur le long terme. Avertissement du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
Un conflit qui, vous le savez, provoque une flambée des prix de l'énergie, notamment du pétrole, eh bien les pays de l'OPEP sont d'accord pour ouvrir le robinet en grand.
Les 23 pays producteurs acceptent d'augmenter leur production mensuelle de 50% à partir du mois prochain. Décision qui doit permettre de stabiliser les cours du brut. L'OPEP craint l'effet boomerang d'une hausse incontrôlée des prix du baril sur l'activité économique de ses membres.
Au Royaume-Uni, le jubilé de platine d'Elisabeth II se poursuit, mais les sujets de Sa Majesté s'inquiètent de l'état de santé de leur souveraine.
Elisabeth II renonce à la messe prévue à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Explication donnée par Buckingham. La reine a senti un certain inconfort, on n'en sait pas plus. Les Britanniques ont quand même pu l'apercevoir deux fois hier sur le balcon du palais à l'occasion des festivités marquant ses 70 années de règne.
Nous sommes le vendredi 3 juin, c'est la journée mondiale du vélo et la période ne lui a jamais été aussi favorable.
4 millions de Français l'utilisent chaque jour, c'est devenu un réflexe notamment dans les métropoles qui se sont lancés dans la chasse à la voiture. C'est aussi un moyen d'échapper à l'inflation des prix de l'essence. Les fous du volant sont devenus des inconditionnels du vélo, Noah Moussa.
Oui, à l'image de Franck, 45 ans, quand le prix de l'essence a augmenté, il a décidé de se mettre au vélo électrique 24 km matin et soir pour aller travailler.
Je prenais ma voiture pour aller travailler. On était à une centaine d'euros par mois de carburant, mais avec l'augmentation, ça avait doublé. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le train et pour aller à la gare, pourquoi ne pas prendre un vélo. Et de ce fait-là, je ne prends plus ma voiture du tout. J'ai carrément éliminé le prix de l'essence.
Un phénomène encore plus important en ville où les infrastructures sont de plus en plus adaptées. adaptée aux cyclistes. Stéphanie Mangin est responsable du pôle observation de l'association Vélo et Territoire.
Le vélo s'est imposé pendant toute la crise comme un geste barrière. Enfin, le vélo s'impose souvent comme un remède anti-crise. Peut-être que le vélo aussi devient un geste limitation des contraintes budgétaires.
Et le nombre de personnes qui sont passées au vélo a augmenté de 13% ces 5 derniers mois par rapport à la même période l'an dernier. Une hausse qui atteint même 39% par rapport à 2019.
Noah Moussa.
Le jour d'après, à Saint-Denis, moins d'une semaine après les incidents en marge de la finale de la Ligue des Champions, le Stade de France s'apprête à accueillir un nouveau grand rendez-vous.
Et ce sera France-Danemark, match de football comptant pour la Ligue des Nations. La sécurité a été renforcée notamment pour empêcher les vols et les agressions commises autour du stade avant et après la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés, près de 700 fonctionnaires seront spécialement affectés à la lutte contre les délinquants. Et puis le tennis, Rafael Nadal s'offrirait bien une qualification pour une nouvelle finale à Roland-Garros à l'occasion de son anniversaire. L'Espagnol qui fête ses 36 ans aujourd'hui affrontera l'Allemand Alexander Zverev. L'autre demi-finale opposera Casper Ruud à Marin Cilic.
C'est noté, merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses à présent, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à Vincennes que va se courir ce Quintet, une course au trot attelé qui réunira 15 chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans sur la distance de 2700 mètres. Avec une solide favorite, Fée d'Orangeval, le numéro 15, la plus riche de ce quintet et qui reste sur une série d'excellentes performances, 3 victoires et une 3e place lors de ses 4 dernières courses. L'opposition sera constituée par les numéros 11, Frégate Méloise, qui vient d'amorcer un net regain de forme, 12, Erasme Williams, malheureux en dernier lieu, ayant trébuché à mi-ligne droite alors qu'il allait terminer à coup sûr dans les 3 premiers, et 4 Fabulous Dream, certainement le plus doué de la course, avec lequel ce sera malheureusement uniquement une question de sagesse et de bon vouloir. Enfin, les numéros 5, Éolien de Chenu, 14 de la Chenevière, 2 Flash Gordon et 13 Douglas Dupont compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 11, 12, 4, 5, 14, 2 et 13.
Vous le savez, ces pronostics, vous les retrouvez sur europe1.fr et ce dès maintenant. Hein. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Le réalisateur Alain Resnais est né le 3 juin 1922 et est décédé 92 ans plus tard, en 2014. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, Alain Resnais était clairement un précurseur dans sa façon de réaliser des films.
C'est vrai, Nuit et brouillard, Hiroshima mon amour, L'année dernière à Marienbad, beaucoup ne comprenaient pas ce cinéma qui n'est pas forcément narratif, mais qui est imprégné de surréalisme. C'est une nouvelle forme d'expression cinématographique, une façon différente de filmer les gens, liée au propre ressenti du réalisateur. Alain Resnais en parlait sur Europe 1 en 1980.
Ce que j'ai ressenti au cours de ma vie, d'une manière peut-être confuse mais très contraignante, c'est que je n'arrivais jamais à faire de mon corps ce que je voulais. Bon, je sentais tout le temps qu'il y avait un conflit. Je voulais une chose, le corps ne le faisait pas. J'avais un désir qui n'était pas celui que j'avais choisi. J'ai jamais eu l'impression, en effet, d'être libre.
Alain Resnais est très tôt passionné par le cinéma. À 12 ans, avec son cousin, il projette des petits films dans sa chambre avec son projecteur Pathé Baby. Tout le passionne, la bande dessinée, la photographie, la littérature. Il se nourrit de tout. Et au cinéma, il maîtrise toujours son sujet, raconte en 1980 Gérard Depardieu.
C'est quelqu'un qui sait exactement tout, il connaît tout de son sujet. Et en plus, il laisse le soin aux acteurs, à l'opérateur, même aux machinistes, il laisse le soin d'inventer. Mais c'est fantastique à ce niveau-là.
La particularité d'Alain Resnais, Laure, c'est aussi qu'il a reçu énormément de prix en France et à l'étranger.
Oui, Cannes, Venise, Berlin, récompense des films forts. Il y a eu Muriel, film politique sur la guerre d'Algérie, Stavisky, sur un grand scandale de la Troisième République, Providence, Mon oncle d'Amérique. Quand on tourne avec Alain Resnais, sait-on que le film va être un chef-d'œuvre ou bien on ne voit rien? Réponse en 1983 de l'actrice Fanny Ardant.
Moi, je ne vois jamais rien. Chaque jour suffit à sa peine et chaque jour à des scènes. Je crois que la dernière chose qu'on sait, c'est quand on voit le film. Alors, on se rend compte de la chose dont on a fait partie.
Et le public dans tout cela? Il est parfois difficile de mobiliser les spectateurs. Alain Resnais abordait le sujet en 93 au micro de Michel Grossiore.
Moi, je crois qu'on ne peut pas pousser le public dans les salles. On peut peut-être le faire sur 24 heures. Bon, ça, tout est possible, mais il n'y a rien à faire, quelle que soit la publicité. Les gens, il faut donner envie aux gens d'aller voir un film. Et ça, tout le monde cherche le secret, mais personne ne l'a vraiment trouvé. Oui.
Et à propos de son cinéma, Alain Resnais disait « Il n'est pas mauvais qu'un œil exercé s'attarde sur ces machines complexes et sensibles que sont les hommes. »
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où, à suivre sur Europe 1, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le soleil, juste avant qu'il ne se lève. Tiens.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est tout juste 5h43. Il pointe en ce moment à l'horizon et s'apprête à donner le ton de notre journée. Le soleil nous éclaire, nous réchauffe, nous offre la possibilité de produire notamment de l'électricité. Mais que savons-nous exactement de lui ?
Bonjour Frédéric Klett.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes physicien solaire à l'Observatoire Royal de Belgique et vous signez cette Bible du Soleil aux éditions Favre. Votre livre s'appelle « Le Soleil et nous, tout comprendre sur notre étoile, de son cœur en fusion jusqu'à la Terre et son climat ». Alors au risque de nous décevoir, Frédéric Klett, vous dites que le Soleil est une étoile finalement ordinaire, comme il en existe tant d'autres.
Oui. Et le fait qu'il soit ordinaire est en fait une bénédiction parce que des étoiles plus grosses brûlent leur carburant en très peu de temps. Et ce qui ne laisse pas le temps à la vie de se développer sur les planètes éventuelles qui tournent autour. Des étoiles moins massives n'apportent pas un rayonnement suffisant vu que, bon, bien sûr, il faut une chaleur suffisante pour rendre une planète habitable comme la nôtre, avec de l'eau liquide qui a permis l'essor de la vie.
Oui, la chance que nous avons, et ce pourquoi nous existons, hein, vous venez de le dire, c'est que ce Soleil, il est à une distance parfaite de la Terre, ni trop loin, ni trop près. Pour nous, vu du plancher des vaches, il semble pourtant si lointain, mais ce n'est pas le cas. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, Le Soleil et nous.
Oui, la vitesse de la lumière fait que la distance est parcourue en seulement 8 minutes. Donc à l'échelle cosmique, on parle d'années-lumière, etc. On est vraiment quasi collé dessus à l'échelle de l'univers. Et en même temps, le Soleil émet non seulement de la lumière, mais un vent de particules qui, en fait, baigne jusqu'aux confins du système solaire, jusqu'aux plus lointaines planètes. Et donc la Terre, en fait, dans son orbite, croise en plein milieu de cette bulle de gaz, de ce souffle du Soleil, qui nous entoure entièrement et qui d'ailleurs interagit avec notre champ magnétique, qui est une des manières par lesquelles le Soleil influence la Terre.
Finalement, nous, communs des mortels, on ne se rend pas compte de la chance d'avoir une étoile aussi proche de nous, visible à l'œil nu. Son étude vous a bien occupé. Est-ce qu'on sait tout de lui ? Est-ce qu'il y a encore des mystères à percer ?
Malgré sa proximité, il cache bien ce secret. Notamment, il est impossible d'aller voir sous sa surface. Et donc, il existe des techniques un peu similaires à la séismologie terrestre qui permettent un peu de deviner des choses sur son intérieur. Mais ça reste quand même une connaissance imparfaite. Et puis, le Soleil est une étoile qui vit et se développe sur des milliards d'années. Et bien sûr, nous, ce que nous observons, c'est une très mince tranche de son existence. Et donc là aussi, mettre en perspective le Soleil tel que nous le voyons maintenant par rapport à comment il était dans le passé ou le lointain futur, là, il reste encore des choses à comprendre et à découvrir, même si on connaît déjà quand même les grosses lignes du scénario.
Le Soleil est un ami qui nous veut du bien, mais alors pas toujours. Si on reste terre à terre, on se badigeonne de crème l'été pour s'en protéger. D'ailleurs, vu d'ici, on a l'impression que notre Soleil brûle. Sur la plage à midi, on le ressent sur notre peau, mais ce n'est pas tout à fait exact de dire ça.
En fait, on lui doit la vie. Si on est là, ici, là, à en parler maintenant, c'est grâce au fait qu'il nous prodigue chaleur, lumière, qui permet la photosynthèse, qui permet les végétaux, etc. Donc, qui crée notre nourriture, fournit toute une série d'énergies qui nous sont bien utiles et qui nous seront encore plus utiles dans le futur. Mais il a ses sautes d'humeur, donc les éruptions solaires, qu'il a toujours eues. Pas plus maintenant que dans le passé, mais il se fait que notre société, durant les quelques dernières décennies, a fortement développé toutes sortes de systèmes qui dépendent de transmission radio. Hein. On a un téléphone portable, on a un GPS dans sa voiture, Et ces systèmes se généralisent, sont utilisés aussi dans la navigation aérienne, etc. Et donc, en fait, notre sensibilité à ces sautes d'humeur du soleil n'a jamais été aussi élevée. Oui. Et ça, c'est nous-mêmes qui avons créé, en fait, cette nouvelle sensibilité et qui nous rend, en fait, vulnérables à certains phénomènes solaires. Les plus grosses éruptions, par exemple, peuvent présenter vraiment un risque, bien sûr, qui était totalement ignoré de nos ancêtres, qui ne dépendaient pas comme ça de l'électricité, par exemple, pour à peu près tout ce qui se fait dans notre vie de tous les jours.
Ce que vous dites, quand on parle d'éruption solaire, hein, Frédéric Klett, on pense d'abord effectivement au formidable spectacle des aurores boréales, mais on ne se doute pas que certaines de ces éruptions solaires, ces éruptions extrêmes, pourraient nous plonger dans le noir, c'est ce que vous dites, puisque nous sommes dépendants de nos appareils électroniques qui, eux, peuvent tomber en panne si le soleil le décide.
En fait, il y a toute une gradation. Il y a des petites éruptions et sur une gamme de plus qu'un million en échelle d'énergie. Et donc, il y a au plus les perturbations sont faibles, au plus c'est courant, et donc il y a quand même des perturbations à des niveaux modérés qui se passent, je dirais presque quotidiennement. Donc, il y a d'ailleurs des services qu'on appelle de météorologie spatiale qui se développent actuellement, justement, pour répondre aux besoins des opérateurs qui sont sensibles à ces perturbations. Donc, c'est un risque nouveau et où la prise de conscience de ça n'est pas encore très forte. On parle des astéroïdes qu'on risque de recevoir sur la tête, etc. Ça, c'est des choses dont on parle. Il y a même des films là-dessus. Mais donc, ce risque d'une grande colère du soleil, où nos technologies sont comme des paratonnerres qu'on tend vers le soleil, ça, c'est un fait nouveau. Et les conséquences de cette situation nouvelle que nous avons créée, ça, c'est quelque chose qui doit être maintenant plus pris en compte.
Et pour en savoir encore plus sur ce mystérieux soleil, j'invite nos auditeurs à lire votre livre « Le soleil et nous » paru aux éditions Favre. Merci beaucoup Frédéric Klett d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes physicien solaire à l'Observatoire Royal de Belgique. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée, oui.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 et entre-temps le soleil s'est levé. Bienvenue à tous sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Deuxième jour de festivités au Royaume-Uni pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Si elle est apparue au balcon de Buckingham hier, elle sera absente aujourd'hui de la messe de son jubilé en raison d'un certain inconfort, indique le palais. Retour en France, objectif, éviter une nouvelle humiliation. Le Stade de France accueille le match France-Danemark ce soir en Ligue des Nations. 6 jours après la finale catastrophique de la Ligue des Champions, plus de 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés aux abords du stade. Et puis à Roland-Garros, demi-finale homme aujourd'hui sur le court central. Raphaël Nadal, qui fête ses 36 ans aujourd'hui, sera opposé à Alexander Zverev. Seconde affiche de la journée, Casper Ruud, Marine Cilic. À suivre évidemment sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Allez, place à la musique.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Ambline et bonjour Julien.
Bonjour Stéphanie, aujourd'hui vous nous parlez de Rivalité, c'est le nouvel album de l'artiste français M.
Oui, c'est un projet qui convoque le rêve et la réalité. M en avait déjà publié un premier single à l'image de cette connexion entre les deux mondes, un titre avec lequel il nous embarque dans une ville futuriste à bord d'une voiture de course vêtue de violet, une couleur qui mêle le bleu, symbole du rêve, et le rouge, symbole de la réalité. Premier single éponyme aux sonorités disco-pop qui inspire la danse, la joie, le chant, ça s'entend. C'est un véritable album conceptuel qu'a concocté M. Il y a des figurines, costumes, bolides, super-pouvoirs. Le clip futuriste dont je vous parlais, qui est aussi onirique, il est réalisé par David Tomaszewski, qui a notamment collaboré avec Aurel San et qui emmène cette fois Mathieu Chédid dans l'univers des super-héros. Dans la foulée, il y a eu un second extrait taillé pour les ondes intitulé « Dans ta radio ». Second chapitre de l'histoire aux côtés de la prestigieuse bassiste Gail Ann Dorsey, qui a entre autres œuvré avec le groupe Tears for Fears et aux côtés de l'immense David Bowie. Trois ans après L'être infini, le chanteur M publie ce matin son nouvel opus. Près de 300 000 spectateurs ont déjà réservé leur billet pour la tournée En Rivalité. Après une résidence de 13 concerts aux Folies Bergères à Paris, Rivalité contient des titres dont le refrain pénètre immédiatement notre esprit. Des titres qui permettent d'abord d'apporter une seule et même réponse à chacune de nos interrogations du quotidien, comme dans le living. Elle et ses musiciens poursuivent leur tournée d'abord dans les festivals d'été, puis dans les Zénith et Arena de France en 2023. J'ai eu la chance d'assister à l'un de ces concerts, aux Folies Bergères dont je vous parlais. Et comme à chaque fois, c'est un spectacle qui frappe en plein cœur. On est debout du début à la fin. On chante, on danse, on rit, on sourit. C'est du concentré des sens de vie, un concert de M. Parmi les nouvelles compositions que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui, l'enivrant Mogodo, qui fait appel à l'enfant qui sommeille en nous. Mogodo, c'est le nom que Louis Chédid donnait à son fils quand il était petit. Et il en a fait une chanson. C'est un des nombreux talents de M. Il n'a jamais cessé d'écouter l'enfant qui est en lui.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et une rumeur.
Oui, une rumeur insistante. Place Saint-Pierre, le pape François pourrait prochainement imiter son prédécesseur Benoît XVI et devoir renoncer à sa charge. Et pour cause, son état de santé s'est clairement détérioré ces dernières semaines. C'est désormais un souverain pontife grimaçant, le regard emprunté et en fauteuil roulant que l'on a aperçu ces derniers temps au Vatican. Le plus petit état au monde, qui n'en est pas moins une formidable usine à rumeurs, d'autant que François vient d'annoncer qu'il allait nommer prochainement 21 nouveaux cardinaux, tous compatibles avec sa vision de l'Église. Le pape est-il en train de préparer sa succession ? Question que l'on va poser dans une dizaine de minutes maintenant à notre invité, le spécialiste du Vatican, Arnaud Béda. Et puis ensuite, on écoutera votre partition, Ouline.
Il y a eu James Brown à l'Apollo Theater de Harlem en 1962, Jimi Hendrix qui a mis le feu à sa guitare sur la scène de Monterey en Californie en 1967, et il y a eu Prince à Syracuse en 1985. C'est le concert qui a construit sa légende. Il sort pour la première fois sur disque aujourd'hui. La partition du Purple Rain Tour dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi. Gros plan sur les températures. Il va faire lourd aujourd'hui.
Alors attendez, accrochez-vous. Vous êtes assis, c'est prêt. Bien. J'espère que vous êtes assis de l'autre côté du poste. Voici les températures relevées à 5h. À 5h, 23 pour Ajaccio, 26 à Toulon. 16 degrés à Paris, 13 à Strasbourg. Alors cet après-midi, il va faire effectivement lourd. On a 20 degrés à Cherbourg, mais là, ça va être assez calme du côté temps. 26 à Lille, 27 à Metz et Bordeaux, 28 pour Paris et Saint-Etienne, 30 degrés à Lyon, 32 à Marseille, 34 à Cahors. Et on pourrait flirter avec le 40 degrés en Corse, en plein soleil. Alors c'est dans le sud-est aujourd'hui, entre la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, que le soleil va faire grimper les températures. Des nuages qui pourront donner 2-3 petites gouttes sur la Côte d'Azur. Donc là, je vous parle du pourtour méditerranéen. La Bretagne. Sur la Bretagne, on aura un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Et entre ces deux zones, des orages. Voilà, la météo comme ça. Des orages localement forts, notamment sur l'Aquitaine, le Limousin ou le Grand Est.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le vendredi 3 juin. Soyez tous les bienvenus. Il est 6h. God save the Queen, comprenez que Dieu protège la reine. Et pour cause, Elisabeth II finalement absente pour le deuxième jour de son jubilé. Mais rassurez-vous, cela n'a pas empêché les Britanniques de faire la fête. Nous trinquons à Londres dans un instant. La variole du singe progresse en Europe, une trentaine de cas en France. Comment peut évoluer le virus? Les réponses à suivre des spécialistes. Et puis la fin de l'angoisse pour les lycéens. Première affectation tombée sur Parcoursup hier soir. Calendrier, réponse, le mode d'emploi à la fin de ce journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal que vous présente Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Comment va Elisabeth II? Deuxième jour du jubilé de la reine. Oui, mais sans la reine, elle n'assistera finalement pas à la messe prévue aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Annonce du palais de Buckingham après un inconfort, je cite, ressenti par la souveraine de 96 ans.
Mais les Britanniques ont tout de même été rassurés. Hier soir, la reine s'est avancée dans les jardins de Windsor pour l'illumination d'un arbre symbole de ses 70 ans de règne.
Oui, et plus de 3000 chandelles allumées dans tout le pays, 200 000 fêtes jusqu'à dimanche. Alors, cheers, comme on dit outre-Manche, démonstration avec notre correspondante Anaïs Cordoba.
Une tablée interminable couverte de fleurs, des drapeaux et des Britanniques qui trinquent. La fête du quartier de Mayfair dans le centre de Londres bat son plein. Parmi les convives, Jerry et Trudy, deux sœurs habillées aux couleurs de l'Union Jack, un verre de Prosecco à la main.
C'est magnifique de se sentir libre et de se retrouver avec des gens qui veulent passer un bon moment et être heureux.
Oui, on a vraiment la sensation d'être revenu à la normale. Les gens se rassemblent en groupe, plus de masques et on peut vivre notre vie.
Le succès de l'événement a dépassé toutes les attentes pour le plus grand bonheur du marchand de vin qui a vendu plus de 200 bouteilles sur son stand.
On a fait des affaires en or. On a vendu tout notre rosé en quelques heures. On nous a dit qu'il y aurait environ 10 000 personnes dans la journée. Mais ça devait être au moins le double ou le triple. Les gens ont vraiment envie de sortir et de s'amuser. Je regrette juste qu'on n'ait pas ramené plus de caisses de vin car on aurait vendu encore plus.
Plus de 10 millions de Britanniques comptent participer aux festivités du jubilé organisées jusqu'à dimanche. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Alors le Royaume-Uni qui est aussi, malgré la fête, le pays d'Europe le plus touché par la variole du singe. 190 malades confirmés, soit un tiers des cas détectés hors d'Afrique depuis le début du mois de mai.
Et chez nous, les autorités comptent pour l'instant 33 Français contaminés, principalement en région parisienne. Un nouveau bilan, sûrement plus élevé, doit être publié ce vendredi.
La maladie, la plupart du temps bénigne, progresse donc, mais Yasmina Katous, ça doit nous inquiéter ?
Eh bien, la communauté médicale est en alerte pour traquer le moindre cas et limiter la circulation de la variole du singe. Mais les spécialistes se veulent quand même rassurants pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque malade fait l'objet d'un signalement obligatoire aux autorités. Il est donc facile de remonter vers les cas contacts et de les isoler. Ensuite, pour éviter la propagation du virus, les médecins français sont armés. Même s'il n'existe pas un traitement spécifique contre la variole du singe, un antiviral contre la variole classique est tout aussi efficace. Il est réservé aux formes les plus sévères. Dans l'arsenal, il y a aussi un vaccin qui est disponible. Pour les personnes contaminées, il peut réduire l'intensité des symptômes. Pour les cas contacts, il peut leur éviter de développer l'infection. Au vu du faible nombre de personnes touchées en France, le ministère de la Santé précise qu'il n'est pas nécessaire de lancer une campagne de vaccination à grande échelle. En France, une dizaine de personnes ont été vaccinées contre la variole du singe.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
Combien d'autres cas carnage, sommes-nous prêts à accepter ? À la télévision américaine hier soir, Joe Biden presse le Congrès de réguler les armes à feu.
Le président américain a demandé l'interdiction des ventes de fusils d'assaut semi-automatiques ou à minima de relever l'âge légal de 18 à 21 ans. Un appel qui a peu de chances d'aboutir. Le parti de Joe Biden ne possède qu'une très courte majorité au Congrès.
6 heures passées de 4 minutes sur Europe 1. 5 jours pour décider de son avenir. C'est court. Les lycéens ont jusqu'à mardi pour donner leur réponse sur Parcoursup.
On veut exaucer en attente ou refuser. Les premières affectations post-bac sont tombées hier soir pour les 900 000 candidats. Et maintenant, que faire ? Mode d'emploi avec Céline Géraud.
Les lycéens qui ont reçu une ou plusieurs propositions d'admission hier soir sur Parcoursup disposent de 3 options. Accepter la formation proposée, refuser ou alors se positionner en liste d'attente en espérant un désistement de candidats mieux placés qu'eux. Dans tous les cas, ils ont jusqu'au mardi 7 juin pour répondre. Attention, pour les propositions reçues après le 7 juin, le délai de réponse est limité à 2 jours seulement. La plateforme est actualisée chaque jour jusqu'au 15 juillet, un intervalle qui doit permettre aux candidats en liste d'attente de choisir la filière la plus adaptée à leurs ambitions. Et pour ceux qui n'auraient rien trouvé d'ici le 15 juillet, cela concernait moins de 10% des postulants en 2021, eh bien ils pourront passer par la phase complémentaire d'affectation avec la possibilité jusqu'en septembre de formuler de nouveaux vœux pour des formations qui ont encore des places disponibles.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Et puis, Julien, je savais pas que vous étiez lancé dans la musique. Ben ne faites pas cette tête.
Je suis atterré. Je sais plus quoi dire.
L'artiste Jules. Bon, bien sûr, évidemment, rien à voir avec notre Julien Pierce. Ça, c'est le cadeau du vendredi,
ouais,
Julien. Voilà.
Ouais, merci, hein. Plaisir d'offrir. Je vais te recevoir.
Donc, le vrai Jules, le rappeur marseillais, pardon, j'y arrivais, ouais, sort un nouvel album aujourd'hui. Ça s'appelle Extraterrestre.
Ah, c'est son 83e album à 32 ans, je crois.
Ah, ouais. Alors, j'avais pas le chiffre, je vois que vous êtes un connaisseur. Le premier extrait qu'on entend, ça s'appelle Ça tourne dans ma tête. Alors, on comprend pourquoi quand même, parce que Jules est le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français.
Oui, merci beaucoup pour ce cadeau. Hein.
Je vous
Roman
en prie,
okay. J'ajoute qu'il il y a 10 départements du Sud-Ouest qui viennent d'être placés en vigilance orange, orage, par Météo France. Merci beaucoup Romane, et à tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal.
Il est 6h06, les sports. On vous retrouve, Martin Lange, et on commence ce journal des sports par les demi-finales hommes à Roland-Garros.
Oui, un choc, un Nadal Zverev, l'Espagnol en quête d'un 14e titre, porte d'Auteuil, affronte le numéro 3 mondial. Les deux hommes ont sorti au tour précédent les deux favoris du tournoi, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais si Zverev joue divinement bien depuis le début de la quinzaine, Nadal reste le favori dans son jardin, selon l'ancien joueur Arnaud Di Pasquale.
Zverev peut le battre. Quand il joue comme sur le match d'Alcaraz, c'est phénoménal. Mais on est à Roland-Garros. Il se passe quelque chose pour Nadal sur Philippe Châtrier. Et là, contre Djokovic, il s'est passé quelque chose. Nadal est au-dessus pour moi.
À suivre aussi l'autre demi entre Marin Cilic et le Norvégien Casper Ruud.
On connaît depuis hier, Martin, l'affiche de la finale féminine.
Oui, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek affrontera la jeune américaine Coco Gauff. La polonaise qui a étrié Kazatkina hier en moins d'une heure et qui reste sur 34 victoires d'affilée fera évidemment figure de favorite. Mais attention à Gauff, un vainqueur en junior il y a 4 ans et qui ne semble pas du tout impressionné.
Je n'ai rien à perdre à l'affronter. C'est certainement la favorite, indéniablement, sur le papier. Mais lorsque je foulerai le court, je jouerai de manière décontractée, je déploierai mon meilleur tennis et ce qui arrivera, arrivera.
Swiatek Gauff, ça sera samedi à suivre évidemment sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
On passe au football avec le retour des Bleus ce soir.
Oui, l'équipe de France affronte le Danemark ce soir au Stade de France. Match pour le compte de la Ligue des Nations, mais qui servira surtout de préparation dans l'optique du Mondial. Sans Didier Deschamps, endeuillé, les Bleus devraient aligner leur équipe type avec notamment le duo Mbappé-Benzema, mais attention aux Scandinaves, très en forme ces derniers mois selon le capitaine Hugo Lloris.
C'est avant tout un des derniers demi-finalistes de l'Euro. L'idée de les affronter deux fois avant la Coupe du Monde, je pense que c'est une bonne chose. Même si ce sont deux compétitions différentes, on a de l'ambition dans ces deux compétitions dans lesquelles nous sommes engagés.
France-Danemark, c'est à 20h45 et c'est dans Europe 1 Sport.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du rugby avec des petits nouveaux en Coupe d'Europe, les 5 franchises sud-africaines disputeront la H-Cup et le Challenge européen à partir de la saison prochaine. Et puis un mot de basket pour finir, les Boston Celtics mène 1-0 contre les Golden State Warriors en finale de la NBA. Rappelons que c'est le premier à 4 victoires qu'il emporte.
Merci, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant. Cette question, le pape est-il sur le point de démissionner? Les rumeurs vont bon train à Rome. On en parle dans une minute avec le spécialiste du Vatican, Arnaud Béda. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h10, excellente matinée sur Europe 1. Votre invité Julien est journaliste spécialiste du Vatican, auteur de François seul contre tous chez Flammarion.
Bonjour Arnaud Béda.
Oui, bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Je suis ravi qu'on puisse vous entendre car vous revenez de Rome où ces dernières semaines le pape est apparu très affaibli, le visage marqué. Il est même contraint désormais de se déplacer en chaise roulante. Est-ce que c'est inquiétant ?
Alors c'est inquiétant, j'ai envie de dire oui et non. Enfin c'est vrai que j'étais à Rome le 5 mai, vous savez il a surpris littéralement tout le monde, y compris son propre bureau de presse. Il est arrivé dans la fameuse salle Paul VI, il est apparu en chaise roulante. Alors évidemment dès lors qu'on voit le pape apparaître en chaise roulante dans une audience publique, évidemment le Vatican qui est un chaudron de rumeurs perpétuelles, ben vous pensez bien que toutes ces rumeurs se sont emballées en quelques minutes.
Oui, on rappelle quand même qu'il a 85 ans, c'est pas aberrant qu'un homme de 85 ans soit en chaise roulante.
Oui, mais c'est un vieux monsieur, effectivement, qui a des problèmes de hanches, de genoux, et qui a subi en juillet dernier, vous savez, cette fameuse opération des intestins. Il devait rentrer pour quelques jours, 2 ou 3 jours, si mon souvenir est bon, et puis finalement, ça a duré presque 10 jours. Et du coup, évidemment, les rumeurs qui circulent au Vatican, c'est de se dire, est-ce que c'est pas plus grave qu'un problème de genou? Enfin, c'est des questions, j'ai envie de dire, de bon sens qu'on se pose tous, parce qu'évidemment, quand on est le chef de l'Église catholique, le chef d'un État, ben évidemment, on est scruté, on est observé en permanence.
Et justement, c'est un chef d'État, vous venez de le rappeler.
Les derniers jours, on voit ce pape affaibli, grimaçant, parfois le regard un peu vide, et bien évidemment, j'ai envie de dire, évidemment, le Vatican se pose des questions, mais tout le monde se pose des questions.
Il n'y a pas d'obligation de transparence sur sa santé, sachant que, vous l'avez rappelé, c'est un chef d'État?
Alors lui, il a toujours été assez clair vis-à-vis de son état de santé. Mais il parle aussi, vous savez, c'est un pape qui parle beaucoup par métaphore. Regardez son discours, son homélie d'il y a 2 jours. Il a fait toute une homélie sur la vieillesse, sur le vieillard qu'on rejette, qu'on place dans des EMS. Et tout ça, évidemment, disons ça. ça alimente encore plus, j'ai envie de dire, encore davantage toutes les rumeurs d'une possible démission.
Ouais, il est en train de préparer le terrain, selon vous, là ?
Alors écoutez, lui aussi, il a souvent soufflé un peu le chaud et le froid. Il a dit durant son pontificat qu'il avait l'impression qu'il aurait un règne assez court. Il a d'abord dit 3 à 5 ans. Et puis, quand on lui posait la question en 2014, donc ça fait quand même quelques années, on lui dit « Est-ce que vous renoncerez un jour comme Benoît XVI, le moment venu ?» Et puis il a dit « Je ferai la même chose que lui, je demanderai au Seigneur de m'éclairer et de me dire ce que je dois faire. » Et il me le dira à coup sûr. Donc on a envie de dire que sa décision est entre les mains de Dieu.
Ce serait totalement inédit dans l'histoire de l'Église qu'on ait deux ex-papes toujours en vie.
Et deux ex-papes en chaise roulante.
Oui. Vous l'avez dit, c'est une manière, on l'a bien compris, d'une certaine manière de préparer les fidèles, mais aussi de justifier éventuellement l'annulation de futurs déplacements, parce qu'il est censé être au Sud-Soudan le mois prochain, dans la fournaise, et ensuite se rendre au Canada. Ça paraît un petit peu excessif au regard des images qu'on a vues dernièrement de lui.
Alors écoutez, est-ce qu'il va montrer sa souffrance comme un Jean-Paul II jusqu'au bout ? Le voyage en Afrique est ouvert aux journalistes, c'est-à-dire qu'on peut déjà s'inscrire pour faire le voyage avec lui auprès du bureau de presse du Vatican. Est-ce que ce voyage va être maintenu ou pas ? Ce d'autant plus que bon, le contexte politique en RDC est quand même assez compliqué, hein. Il y a notamment au Nord Kivu où il doit se rendre. Donc évidemment, tout le monde est un peu suspendu à est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire. Et puis on sait que pour le voyage au Canada, les organisateurs canadiens ont un peu parlé aux journaux locaux et ont dit à quel point c'était compliqué d'organiser ce voyage.
On sait qu'il a beaucoup d'ennemis, le pape François. Est-ce que là aussi, ça s'agite en coulisses ?
Eh bien, évidemment, il a beaucoup d'ennemis, il a quand même beaucoup secoué les consciences, hein. Il est arrivé quand même avec un programme qui dépotait, si vous me permettez cette expression. Souvenez-vous le début de son pontificat, il refuse les appartements pontificaux, il roule dans une petite voiture, il va dormir à Sainte-Marthe parmi des curés retraités, des bonnes sœurs, il se met parmi les gens, et tout ça évidemment ça n'a pas plu à beaucoup de cardinaux qui étaient habitués aux ors du Vatican, à l'apparat, aux signes extérieurs du pouvoir. Alors évidemment quand le pape montre l'exemple et que les cardinaux derrière doivent faire la même chose, ils ont eu l'impression pour beaucoup de perdre un peu de leurs prérogatives. Donc tout ça évidemment crée une opposition, crée des ennemis, rien ne lui a épargné évidemment.
Mais est-ce qu'il y a un leader qui
c'est un homme continuellement sous
Est-ce
pression.
Est-ce qu'il y a un leader de l'opposition, entre guillemets, qui se détache ?
Alors, il y en a quelques-uns hein, qui sont connus, des cardinaux principalement italiens, qui attendent qu'il se passe quelque chose et qui évidemment. Mais alors, est-ce qu'il représenterait, le cas échéant, si un conclave devait être organisé, disons, je ne sais pas, à la fin de l'année ? Est-ce que ces cardinaux auraient le pouvoir d'élire un pape issu de leur mouvement ? C'est pas sûr.
D'autant,
parce que le pape vient de nommer 21 nouveaux cardinaux, dont 16 électeurs, hein, de moins de 80 ans. Et puis, on arrive à 75%
qui sont tous, on va dire, Bergoglio compatibles, hein, qui sont tous dans la même lignée que la sienne.
Complètement Bergoglio compatible. Et puis, par exemple, prenez le futur cardinal français, hein, Monseigneur Aveline, il est complètement bergolien, il est complètement dans le...
Évêque de Marseille.
Vous savez, c'est le théologien de la Méditerranée, le théologien des quartiers, c'est quelqu'un qui va au contact, qui est très humain, qui plaide pour un synode de la Méditerranée, un dialogue interreligieux, tout ça est très très bergolien.
Merci infiniment, Arnaud Béda, de nous avoir éclairé ce matin sur l'état de santé du pape et plus largement sur ce qui se passe actuellement au Vatican. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, François seul contre tous, c'est à lire chez les éditions Flammarion. Merci à vous.
Merci.
A tout de suite sur Europe 1 avec la partition de Prince.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés aux abords du Stade de France ce soir pour France-Danemark en Ligue des Nations. L'objectif pour le gouvernement étant d'éviter une nouvelle soirée de fiasco comme celle de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Mise en garde de l'OTAN hier, les pays occidentaux doivent se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. Alors que ce vendredi marque le 100e jour de conflit, 20% du pays est désormais contrôlé par les Russes selon Kiev. En réponse aux Occidentaux, les membres de l'OPEP+, dont fait partie la Russie, ont annoncé hier doper leur production de pétrole pour les mois de juillet et août, la faisant passer de 432 000 barils par jour à 648 000. Mais Moscou ne pourra pas en produire plus.
On termine avec votre partition, Omblin, et un événement. Le concert à Syracuse, dans la région de New York, qui a fait entrer Prince dans la légende, sort pour la première fois sur disque aujourd'hui. On revient avec vous, Omblin, sur ce 30 mars 1985. Hello, Syracuse and the world. My name is Prince.
And I've come to play with you. Bonjour Syracuse et le monde, je m'appelle Prince et je suis venu jouer avec vous devant plus de 50 000 personnes. Prince monte sur la scène du New York Carrier Dome dans une combinaison bariolée enfilée par-dessus une chemise à jabot, une fourrure blanche lui couvre l'épaule droite, sa guitare est jetée nonchalamment dans son dos.
Ce concert à Syracuse conclut en apothéose le Purple Rain Tour, une tournée de 100 dates à travers les États-Unis.
Qui fait la promotion de Purple Rain, un album aussi ambitieux que surprenant. Avec son groupe The Revolution, Prince embrase chaque ville américaine qui reçoit le Purple Rain Tour. La tournée a des allures de cirque Barnum. Le chanteur se produit dans des arènes qui peuvent rassembler plus de 90 000 personnes. C'est le cas à la Nouvelle-Orléans.
On compare cette tournée pharaonique et l'engouement qu'elle provoque à l'arrivée des Beatles aux États-Unis.
Oui, il faut dire que le show est démentiel. Prince change de costume plusieurs fois, il se déshabille pour ne garder que des pantalons et des colliers. Il saute autour de l'échafaudage du décor, on le voit même se tortiller dans une baignoire.
Et le chanteur a conscience qu'il est en train de basculer dans une autre dimension.
Oui, s'il existait un Prince à la ville et un autre à la scène, ce ne sera plus le cas à présent. Il décide d'ailleurs de ne plus voyager dans le même bus que le reste du groupe dorénavant. Il va rester dans la peau de Prince, le kid de Minneapolis, 24h sur 24.
À Syracuse, l'émotion et la tension montent d'un cran.
Oui, parce qu'on l'a entendu au début, Prince salue le public en face de lui et le monde entier. La prestation est non seulement filmée, mais également retransmise en direct à la télévision, y compris en Europe via satellite. Quand arrive le moment d'interpréter le dernier titre du concert, Prince arrive sur scène dans une cape scintillante et offre une version de Purple Rain de près de 20 minutes.
Autant vous dire que c'est qu'un extrait hein, de ce live, de cet extrait Purple Rain. Il reste là, je vois 15, le décompte, hein. Il reste 8 minutes, sachant qu'on n'avait pas pris au début Prince et cette interprétation mémorable en live donc de Purple Rain à Syracuse aux États-Unis en mars 85. Pendant presque 40 ans, il n'a existé qu'un film de ce concert, diffusé sur cassette VHS et dont les versions pirates étaient visibles sur Internet. Et bien depuis ce matin, vous pouvez enfin vous procurer le disque gravé à partir de l'audio source retrouvé récemment dans la chambre forte du musicien chez lui à Paisley Park, à Minneapolis, audio remasterisé, disponible en CD, vinyle, également sur les plateformes de streaming. 18 minutes de Purple Rain, c'est que du bonheur. À propos de ce concert historique, Prince disait « Il n'y a rien que je changerais. C'était l'un des concerts les plus puissants auxquels j'ai jamais assisté. »
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko poursuit la matinale. À tout de suite.
Europe Matin. 6h27, excellente matinée avec Europe 1.
Et bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi de bonne heure et de bonne humeur. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien. Bonjour Omblin.
Bonjour.